Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et parmi les sorties au cinéma de ce mercredi, coup de cœur de Stéphane Boutsock pour le thriller fantastique Sans un bruit. Et côté français, un tout autre univers avec la sortie sur les écrans de Bécassine de Bruno Podalides. Qui allons-nous applaudir cet été sur les scènes des festivals? Steven Bellery nous proposera un tour de France des rendez-vous incontournables. Nous prendrons connaissance de nos express du jour préparés par Olivia Leray. Et puis on jettera un œil sur le programme télé du soir avec Isabelle Morini-Bosque. Voilà qui est dit.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Notre séance cinéma du mercredi avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Programme très varié cette semaine, on va voir ça dans un instant, mais tout d'abord, bien entendu, notre coup d'œil aux résultats du box-office. La semaine passée, vous nous disiez que ça n'était pas bien folichon côté entrée. Est-ce que les choses se sont améliorées?
Alors, ce que disent les chiffres de nos amis de CBO.fr, c'est que oui, un peu, mais pas tant que ça. Jurassic World reste en tête. Le film a dépassé les 2 millions d'entrées, mais on sera assez loin au final des 5,2 millions du premier volet en 2015. Démarrage correct, mais sans plus pour Ocean's 8 qui frôle les 300 000 spectateurs. C'est carrément plus difficile pour Comment tuer sa mère avec Chantal Latsou. On est autour des 65 000 entrées.
10 nouvelles sorties seulement à l'affiche en ce 20 juin sur nos écrans. Stéphane, vous commencez par un gros coup de cœur pour le film américain Sans un bruit.
Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant peur au cinéma. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un thriller fantastique aussi bien écrit, aussi bien réalisé. Sans un bruit, en fait, démarre au 89e jour d'une invasion extraterrestre. L'ennemi est un alien qu'on ne voit pas, mais qui est là, quelque part. Il a une particularité, cet alien, il est aveugle, mais ses capacités auditives sont décuplées. Donc ça veut dire qu'au moindre bruit, il fonce sur vous, il vous tue et il vous boulotte. Le film suit une famille réfugiée dans une maison, dans les bois, dont tout le quotidien tourne en une obsession, rester silencieux pour survivre. Un couple, ses trois enfants, un quatrième à naître, c'est malin, c'est haletant, c'est flippant. Sans un bruit est un remarquable film, porté notamment par l'actrice Emily Blunt, qu'on a vu dans Le Diable s'habille en Prada ou encore Sicario, et son mari, John Krasinski, par ailleurs réalisateur du film.
Pour moi, les créatures ont toujours été accessoires par rapport à ce que le scénario m'inspirait. Je suis moi-même la mère de deux filles et tout cela me renvoie à ma plus grande peur. Le fait de ne pas réussir à protéger ses enfants avec tout ce que cela implique, ça m'a terrorisée de jouer ce rôle. Et je crois que nous l'avons imaginé en situation de vulnérabilité. Nous venions d'avoir notre deuxième enfant et John écrivait ce scénario alors que notre fille n'avait que 4 mois. Et puis ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est qu'il ne livre pas toutes les clés. Vous êtes libre d'interpréter les choses. C'est très intelligent et ambitieux. Je n'ai rien vu de tel encore.
Emily Blunt à l'affiche de Sans un bruit. J'espère vraiment que le film fera un vrai raffut au box-office français, comme il l'a fait d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique et dans le monde entier. Un mot également, ne ratez pas ça non plus, de Une prière avant l'aube, réalisé par un Français, Jean-Stéphane Sauvert. Éprouvante, implacable plongée dans les prisons thaïlandaises, là où échoue un jeune boxeur anglais qui est arrêté pour trafic de drogue. L'organisation de combat officiel de prisonniers derrière les barreaux lui donne l'occasion de survivre. C'est tiré d'une histoire vraie, on est entre Raging Bull et Midnight Express. Attention, un film rude, haletant, moite, mais ça mérite vraiment le détour.
On change d'ambiance, Stéphane, avec deux comédies françaises à découvrir ce 20 juin. Vous revenez bien entendu d'abord sur Le Doudou.
Rappelez-vous, nous avions reçu Kan Merad et Malik Bentala il y a 10 jours pour parler de ce film réalisé par les auteurs des Tuches, Julien Hervé et Philippe Méclin. L'histoire de Michel, papa, partant à la recherche de la peluche de sa fille, peluche égarée dans un aéroport, et devant faire équipe avec Sofiane, employée à Roissy, qui a tenté de lui refiler un autre doudou pour toucher la récompense. Tandem improbable, confronté à des situations et des personnages qui le sont tout autant. Extrait.
J'imagine que si on s'arrête ici, j'ai pas mon argent.
Ah oui, t'imagines très bien, oui.
Vous y tenez à ce doudou, hein?
Tu sais ce que c'est qu'un doudou?
Un doudou, c'est une peluche qui sent mauvais, qu'est-ce que
non,
c'est?
Non, c'est pas qu'une peluche. C'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité.
C'est quoi cette phrase, là? On est sur Wikipédia?
Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou.
Drôle, tendre, Le Doudou est la bonne comédie de cette fin de printemps. En face, sur vos écrans, la sortie de Bécassine, réalisée par Bruno Podalides avec son frère Denis, mais aussi Karine Viard, Josiane Balasco, Michel Vuillermoz et Emmeline Bayard. C'est elle qui incarne l'héroïne bretonne, naïve et généreuse, souvent les Bretons d'ailleurs. Un personnage créé au début du XXe siècle par le duo Rivière-Pinchon en bande dessinée. Alors honnêtement, c'est à la fois charmant et désuet, plutôt joliment filmé, mais on a un petit peu de mal à cette attaché au personnage à la fois godiche et sympa. Extrait.
cet amour. Comme tous les amoureux.
Et vous allez où comme ça?
À Paris.
Ah mais vous tournez le dos à la gare de Guingois, à 14 km. Et Paris, c'est à 460 km.
Je suis pas pressée.
Tu t'appelles comment, ma jolie?
Loulotte.
Loulotte.
Louise Charlotte, mais nous l'appelons
Loulotte.
Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons personne pour nous occuper de Loulotte pour ce soir, vu que nous n'avons plus de nourrice.
On va pas la payer.
Montez donc dans la voiture, mademoiselle.
Bécassine.
Bécassine?
Oui.
Alors, le souci, en fait, c'est que Bécassine évoque sans doute plus tout à fait grand-chose aujourd'hui pour le public jeunesse à qui le film s'adresse. On a vu les échecs récents de Gaston Lagaffe, de Spirou et Fantasio ou de Boule et Bill 2. Une bonne BD ne fait pas forcément un film attractif. Un mot enfin de À genoux les gars qui avait fait sensation à Cannes le mois dernier. Il y est question d'une jeune fille de banlieue filmée par son copain alors qu'elle fait une gâterie au petit ami de sa sœur. La vidéo va devenir un moyen de chantage jusqu'à ce que les deux filles s'unissent pour se venger des deux garçons. Mal filmé, mal joué, épouvantablement dialogué, le film est en fait l'exemple type d'un bon sujet. Il y en a plein dans le film. L'addiction des gamins au porno, la place de la femme dans les cités, les dangers des réseaux sociaux, mais alors vraiment gâché par une approximation totale de l'essentiel. Quand même un principe, faire de tout cela quelque chose de regardable pour le public.
Ah ben voilà, les choses sont dites. Ce jingle nous annonce les audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque. Isabelle.
Eh bien, alors, Camping Paradis en tête avec 3,9 millions de téléspectateurs. C'est 430 000 de plus à peine que Tandem sur la 3 qui fait vraiment une très belle saison. Derrière une célébrité garde ses fidèles, pas un de plus sur M6, 1 700 000. Et alors, Le Village préféré des Français, un assez joli score, 2 400 000, 12% du public sur la 2. Et alors, côté TNT, j'ai pas complètement ajusté mes yeux, mais ça doit être Sahara sur... Non, c'est pas ça. Non. Si, ça arrache sur Énergie 12.
Bon, voilà.
Je ne sais pas exactement ce que c'est, j'étais pas devant.
C'est pas un film, ça, Sarah ?
Je ne sais pas. Ah, ça, si, c'est un film d'animation.
Oui,
la voix de Marcy, notamment, et de Louane.
Il est là, le Calvi.
C'est un désert.
Merci.
Dans un instant, nos express du jour, il y sera notamment question, je dis bien notamment question, d'une comédie musicale sur Michael Jackson, bientôt et à Broadway.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
On a travaillé notre Sahara concernant le film qui est passé
pas
sur Énergie 12. C'était pas le bon.
C'était pas le film d'animation, c'était avec Matthew McConaughey et Penelope Cruz. Oui,
c'est autre chose. Je crois que c'était pas mal d'ailleurs. Allez, nos express.
Merci Stéphane.
Des express préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
D'abord, que donne cette semaine le palmarès RTL, l'express des meilleures ventes de livres?
Eh bien, La jeune fille et la nuit de Guillaume Busso repasse en tête devant Une fille comme elle de Marc Lévy. Qui a tué mon père d'Edouard Louis complète le podium.
Palmarès complet à retrouver dans les colonnes de l'express.
Notez que ce n'est pas une blague. Notons. Les jeunes lisent, je vous assure. 13 livres par an au moins
en
pour
diagonale.
86% des 15-25 ans. Étude Ipsos pour le Centre National du Livre. Les jeunes femmes lisent en général 3 livres de plus que les hommes.
Ça ne m'étonne pas.
Bravo mesdames.
Une comédie musicale sur Michael Jackson, bientôt à Broadway.
C'est pour 2020, alors qu'on fêtera l'an prochain les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Ses héritiers viennent d'annoncer la préparation d'une comédie musicale sur sa vie. L'écriture du spectacle a été confiée à la dramaturge Lynn Nottage, lauréate entre autres du prix Pulitzer en 2009. On y retrouvera les principaux tubes de Michael Jackson, des Jackson 5 aux albums mythiques.
Et c'est surtout Christopher Wildon qui sera à la mise en scène et c'est à lui qu'on doit un Américain à Paris au Châtelet. C'était magique.
Oh, c'était magique.
Oui.
Dans l'actualité aussi, Olivia, une autre légende qui a marqué la Motown.
Marvin Gaye, bien sûr, décédé en 1984. Eh bien, figurez-vous que le rappeur Dr. Dre s'intéresse de très près à sa vie. Le monstre du rap s'apprête à réaliser un biopic sur le roi de la soul, comme le rapporte Variety. C'est le seul film qui a été approuvé par la descendance de Marvin Gaye.
On connaît la date de sortie de la suite des Petits Mouchoirs au cinéma.
Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, tourné ce printemps. Ça s'est fini il n'y a pas longtemps, à la fin du mois dernier, sur le bassin d'Arcachon. Eh bien, ça va débarquer au cinéma le 25 mars 2019. On y retrouvera évidemment Marion Cotillard, François Cluzet, Valérie Bonneton, Laurent Lafitte et toute la clique. On a hâte. Le premier film avait attiré près de 5 500 000 spectateurs il y a près de 10 ans. L'histoire reprendra 7 ans après Les Petits Mouchoirs pour l'anniversaire de Max, joué par François Cluzet. The end is
near, and so I got to face the final curtain. Et puis notre ami Julien Courbet prend les commandes de Capital sur M6.
À partir du mois de septembre, il présentera le magazine d'information créé en 1988. Julien Courbet a annoncé son départ de C8 le mois dernier, mais on ne savait pas encore quel rôle il allait jouer sur M6. Évidemment, il reste aux manettes de Ça peut vous arriver tous les jours après le VT sur
RTL. Alors ça, j'entends bien.
Oui, alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très forte personnalité pour une très forte marque, toujours là, donc, au bout de 30 ans. Connaissant bien Julien Courbet, avec qui j'ai eu la chance de travailler, je peux vous dire que ça sent bon. C'est peut-être pas un pro de l'économie, mais c'est un fin connaisseur du secteur qui le passionne. Mettre l'économie au service et au niveau du public, c'est déjà ce qu'il fait au quotidien sur RTL. Il sait manier l'humour et l'humeur. Il est impertinent et pertinent. Il va évidemment renforcer le programme sans le dénaturer. Sa contribution est donc évidemment capitale.
Et notre Julien, on va le retrouver dès 9h30 sur notre antenne. On passe maintenant à la veille de la fête de la musique. Oula, attendez, je me suis mal embarqué dans cette phrase. Bon, bref, bonjour
bonjour à tous.
Bonjour Stéphane.
On va parler du festival.
Demain, c'est la fête de la musique. Qui allons-nous voir cet été sur les scènes dans les plus gros festivals?
Alors, comme chaque année, vous savez, il y a un site qui s'appelle sourdoreille.net et qui s'amuse à faire les comptes, et leur étude annuelle révèle les squatteurs des festivals en tête du classement. Avec 25 spectacles programmés, le duo toulousain Big Flo et Oli.
Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois.
Deuxième, les Négresses Vertes. 30 ans après la sortie de leur premier album, le groupe a décidé de se reformer. Ils chanteront dans 24 festivals cet été. Sur la troisième marche du podium, l'une des révélations de l'année avec son premier album Cure, paru début mars, Eddie De Preto va parcourir 23 festivals. Il est encore septième des ventes de disques cette semaine. Il a déjà écoulé 80 000 exemplaires de son disque inclassable, puissant. J'ai revu Eddie De Preto il y a quelques jours, forcément sur un nuage.
J'essaie de le vivre le plus calmement possible, mais parfois il y a des zones un peu comme ça, vertigineuses, parfois des vagues comme ça dans la tête qui arrivent et qui te font un peu perdre pied, mais ça a été assez vif. Moi, ça m'apaise énormément, tout ce que je suis en train de faire. Ça m'amène une certaine sérénité, bizarrement, à mon tempérament, à un certain calme, une certaine assurance aussi, parce que plus on reçoit de l'assurance, plus on est confiant aussi. Mais j'ai toujours envie de garder un certain doute et des zones que je connais peu en moi pour justement rechercher et puiser dans d'autres choses pour la suite. Je suis pressé, excité d'arriver sur les festivals. J'ai jamais fait de festival, même en tant que public, donc je connais pas trop les ambiances. Tout le public ne sera pas conquis forcément, vu qu'il y a des gens de passage, des gens qui pensent à quelle buvette ils vont aller boire leur prochaine bière.
Vous attendez la deuxième remontée, c'est bien cela. Alors, Eddie De Preto, qu'on retrouvera vendredi en ouverture du festival Solidays, Steven.
Oui, Solidays qui fête cette année ses 20 ans sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Le festival organisé par Solidarité Sida accueillera pêle-mêle ce week-end Jane, Camille, le groupe IAM ou encore David Guetta. On le rappelle, les artistes acceptent tous des cachets réduits pour lever des fonds pour l'association. Luc Barruet est le patron du festival Vintenaire.
C'est un sacré cap, 20 ans, parce que c'est le début de l'âge adulte et c'est plutôt une date qui nous pousse à regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. On a des missions qui se renforcent avec le temps, parce que quand on a commencé à 40 000 et qu'aujourd'hui on est 200 000, bah on se sent un peu plus responsable de pas mal de choses. L'environnement a changé, on a commencé à Paris, on était tout seul. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, des festivals. C'était plus facile de parler de solidarité, de mobiliser les artistes que ça ne l'est aujourd'hui. Et puis que malheureusement, la lutte contre le sida, ça fait déjà 35 ans qu'elle est là. Donc c'est assez normal qu'en 2018, la proximité que peuvent avoir les gens, artistes compris, avec la cause, soit pas exactement la même. C'est très éclectique, la programmation de Solidarité. Tous les goûts et toutes les tendances sont représentées. Par contre, il y a bien évidemment beaucoup d'autres choses sur l'éveil des consciences. Donc, on a des expositions qui font réfléchir. On a des talks avec des personnes inspirantes qui viennent parler de la problématique des migrants, du handicap, du sida dans le monde et de la solidarité de manière générale et de la jeunesse. On va dire le temps d'un week-end, terre d'accueil de tous les gens qui, quelque part, au fond d'eux, ont envie de nourrir leur quête de sens. C'est aussi ça, l'ambition du festival.
La formidable. Clara Luciani viendra défendre son premier album dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Sainte Victoire, elle sera dimanche à Solidays.
Autre rendez-vous considéré comme incontournable, les Francopholies de La Rochelle, Steven.
L'une des plus jolies programmations. Véronique Sanson y fera une nouvelle fête le mercredi 11 juillet aux côtés de Vianney, son fils Chris Stills et son ex-mari Steven Stills. Nolwenn Leroy chantera dimanche au Franco. Elle a 16 festivals de prévus cet été. Un de moins que Julien Clerc qui chantera aussi dimanche 15 juillet et aussi le 29 juin dans les arènes de Nîmes ou le 8 août au festival de Ramatuelle.
Mazette, une économie des festivals de plus en plus bousculée par les Américains.
Oui, avec l'arrivée d'AEG ou de Live Nation notamment, qui produit désormais le Main Square à Arras, le Download Festival qui s'est terminé lundi à Bretigny et le Lollapalooza, trois rendez-vous désormais incontournables et des moyens, des méthodes qui commencent à effrayer les indépendants comme les Vieilles Charrues. Jérôme Tréorel est le président du premier festival français.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que beaucoup de festivals sont trustés ou rachetés par des producteurs, des grands groupes français ou américains, ou des banques ou des boîtes d'entertainment, on peut se poser des questions sur l'avenir ou du moins être vigilant pour des festivals associatifs à but non lucratif comme les Vieilles Charrues, les festivals indépendants, de se dire est-ce qu'on pourra toujours avoir la possibilité d'acheter des artistes, que ce soit des têtes d'affiche ou des coups de cœur ou des découvertes pour faire rêver notre public. Et que le marché est devenu une vraie industrie. On voit que depuis la chute des ventes de disques, les cachets des artistes ont explosé sur les tournées et encore plus sur les festivals. Les Vieilles Charrues, c'était il y a une dizaine d'années autour d'1,7 million d'euros le budget artistique. Et aujourd'hui, on est entre 4 et 4,5 millions d'euros. Maintenant, il faut être vigilant à ce que l'exception culturelle en France reste, qu'il n'y ait pas d'homogénéisation de l'offre. Surtout aussi être vigilant à ce que les artistes puissent circuler librement sur les différents festivals. Et surtout, la vigilance est de rester accessible au public, accessible avec des offres tarifaires, j'ai envie de dire cohérente. Nous, c'est 44 euros la journée. On fera en sorte de se battre pour continuer à proposer des prix accessibles pour tous, pour que voilà, tout le monde puisse venir faire la fête.
Et les Vieilles Charrues frappent encore fort cette année. Dépêche Mode en ouverture le 19 juillet.
On va terminer par quelques coups de cœur pour des festivals un peu plus confidentiels, mais très attachants.
Exactement comme chaque année, Carcassonne accueille pendant tout le mois de juillet une pléiade de stars dans son magnifique théâtre à ciel ouvert. Ouais. Ne ratez pas Serge Lama le 16 juillet, Louane le 21 juillet ou Julien Doré le 28 juillet. Il s'y produira en solo et en acoustique.
Parce que là, pour le coup, je me retrouve moi-même dénudé d'une certaine façon, à fleur de peau, et ce sentiment d'être à fleur de peau là est visible immédiatement, il est palpable. C'est pas si simple. Proposer ces chansons-là de cette façon-là et repartir sur scène tout seul, ça me fait du bien, c'est doux, mais en même temps, j'ai peur, quoi. C'est-à-dire, y a pas du tout de filet. Mes gars sont pas autour de moi pour porter mes mots, ça va être simplement mes mains, ma voix, ma présence, et aussi le fait de m'habituer aussi au silence, à ce qui va se passer avec le public présent, donc c'est un abandon, mais aussi une grande prise de risque pour moi.
Tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire pourvu que les hommes.
Autre rendez-vous plus intime, j'irai volontiers applaudir Mélodie Gardot au festival Jazz in Cheverny au château éponyme dans le Loir-et-Cher. Elle s'y produira le 30 juin. C'est un rendez-vous qui allie musique, gastronomie et patrimoine. Autre mélange des genres au BI, acronyme de Biarritz en été. Première édition pour ce festival qui aura lieu du 20 au 22 juillet. Et vous pourrez, entre les concerts de Juliette Armen et Étienne Dao par exemple, prendre des cours de surf ou de yoga. Une dernière idée bucolique, le festival Le Mât des Escaravatiers, c'est à Puget-sur-Argent dans le Var. Un verre de rosé, pas plus, sous les oliviers, en écoutant Célassou le 21 juillet, la révélation Angèle le 25 juillet ou Olysses le 26. Que vous pourrez également applaudir le 29 juin au festival EuropaVox.
Vous allez trouver des trucs formidables. Oui. Et enfin, le 50e anniversaire du festival Django Reinhardt, Steven.
50 ans qu'on joue du jazz à Samois-sur-Seine et désormais dans le parc du château de Fontainebleau. Ce rendez-vous se revendique comme le plus petit des grands festivals de jazz français.
Exactement ça.
Des concerts gratuits et aussi George Benson, Marcus Miller ou Hugh Coltman cette année. Une édition qui sera dédiée à Didier Lockwood, décédé en février. Coup d'envoi le 30 juin.
Oh là là, qu'est-ce que c'était agréable, merci, on a passé un merveilleux moment. Dans un instant, on s'intéresse à la télévision, c'est avec Isabelle Morini-Bosque qui est plein d'infos.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Isabelle Morini-Bosque, quels sont les gagnants télé de l'année 2018? Vous avez noté via les sites d'RTL, Pure Média et 20 minutes. Voici donc le résultat de TV Note 2018.
Exactement. Yes, vous avez été cette fois encore quelques 700 000 à voter en 15 jours. C'est pas rien, c'est même mieux que très bien. Et on va commencer par honorer celui qui fait l'actualité, Julien Courbet, puisque La Quotidienne, c'est que de la télé qu'il a présenté cette année sur C8, est nettement en tête dans la catégorie magazine de société. On constate, en disséquant les résultats, que le public préfère l'évolution à la révolution. Valeurs sûres et nouveaux entrants cohabitent. Les valeurs sûres, c'est Joséphine Ange Gardien, meilleure mini-série. Cash Investigation, meilleur magazine de reportage. Grey's Anatomy, meilleure série étrangère, ou Jean-Pierre Pernaut, meilleur présentateur de JT. Les entrants, le Burger Quiz, Alain Chabat, meilleur jeu, enfin retour, et Camille Combal, meilleur chroniqueur. Sans surprise, TF1 M6 sont classés meilleures chaînes historiques, et C8 côté TNT. Notez que les mésaventures de Koh-Lanta n'altèrent pas l'intérêt du public, ce jeu d'aventure est en tête de la télé-réalité. Enfin, la meilleure animatrice 2018, c'est toujours Karine Lemarchand devant Christina Cordula. M6, son pendant masculin, c'est Cyril Hanouna et TPMP, meilleur talk show. Et je termine par mes chouchous absolus, Scène de ménage, meilleure série française, et Cauchemar en cuisine, meilleure docu-réalité devant Maison à vendre. Bravo Philippe Etchebest et Stéphane Plaza. Palmarès complet sur les sites de RTL, 20 minutes et Pure Média.
Coup de chapeau maintenant à une série que vous adorez.
Ah oui, New York, unité spéciale que je regarde habituellement vers 1h du matin. Ce soir, inédit à 20h50. Aux États-Unis, alors que toutes les séries à base d'experts ont disparu, New York, unité spéciale est reconduite pour une 20e saison. On suit l'unité spéciale des contre les crimes sexuels d'Olivia Benson, alias Mariska Hargitay, fille dans la vie de Monsieur Univers et de la célèbre blonde platine Jane Mansfield, morte en 67 dans l'encastrement de sa décapotable sous un camion, on le sait. Mariska était dans la voiture. L'actrice incarne Olivia Benson depuis l'épisode 1 de la saison 1. Et ce soir, son fils adoptif a été enlevé.
Quelqu'un a vu ce petit garçon? 1m20, il a les cheveux bruns frisés, les yeux marrons.
Il a 5 ans, il mesure environ 1m20.
Excusez-moi, hé, police, arrêtez-vous! Est-ce que quelqu'un a vu cet enfant?
Ah, générique.
Ah, c'est moi, c'est l'une de mes musiques préférées.
Ça vous fait vibrer.
Avec ce soir Brooke Shields et en 2010, une certaine Isabelle Huppert qui avait fait mieux qu'une apparition. Bon. Cela dit, regardez un replay pour privilégier en direct ce soir sur M6 Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Feuilleton, si vous voulez, écrit par Anne Jaffery, la scénariste de Fais pas ci, fais pas ça. C'est pas aussi hilarant que Fais pas ci, fais pas ça, mais j'ai beaucoup aimé les trois derniers volets de cette histoire racontant le retour au pays d'un quadrapsy, c'est Laurent Dutch, lassé de Paris. Anne, sa femme comédienne, est enceinte. Leur adaptation difficile et coûteuse. Exemple avec le devis de la nouvelle cuisine.
Vous pensez que ça ira chercher à peu près dans les combien?
Il faut que je fasse le devis, mais à vue de nez comme ça, entre 4 et 5 000.
Euros?
Non, en ancien franc.
Voilà. Ne loupez pas le dernier épisode, le nouvel an entre amis en Normandie. Mm-hmm. Anna a 15 jours d'accoucher en amarre. Il fait savoir au moment où son mari et ses copines déchargent les voitures.
Oh, j'en peux plus.
Qu'est-ce que tu dirais si tu portais ce que je porte?
Et qu'est-ce que tu crois que je fais là?
Je sais bien, j'ai dit ça comme ça.
Je porte le bébé tous les jours, mais je peux prendre les sacs aussi si tu veux. Tu sais combien ça pèse, un ventre pareil?
Elle a pris au moins 20 kilos. On aimerait bien t'y voir.
Non, j'en ai pris 12.
Les bras gonflés, les jambes gorgées d'eau, le visage boursouflé. Voilà. Tu crois que c'est agréable de plus reconnaître son corps?
Voilà. Et les médusés, nous aussi.
Oui, un
j'ai
petit peu.
Beaucoup aimé ce dernier volet. Voilà, ils appliquent tous la règle. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. C'est à 20h50 sur M6. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Isabelle Morini-Bosque, dans un instant, on dit au revoir à toute l'équipe et on accueille Julien Courbet. Merci d'écouter RTL. Merci à toute l'équipe. Il est 9h31. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien. Alors j'ai appris que vous alliez lire le Karl Marx sur M6 maintenant.
Exactement. Là, depuis
le Capital.
Hier soir, je lis Les Échos, Le Figaro Écho, Le Capital, Challenge. Je parle à mes enfants comme ça maintenant. Derrière cette porte, une femme qui fait à manger. Objectif, nourrir 4 personnes. Nous avons voulu enquêter sur la façon de cuisiner de Catherine Courbet. Il est 20h10. Le repas démarre.
Enfin, voilà. Donc maintenant, moi, je trouve ça
je m'y mets et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal.
Ah, bah, j'en doute pas, oui.
Voilà,
pas
voilà la
bon,
suite au mois de septembre.
On est très heureux pour vous, nous.
Je suis ravi, écoutez, défendre une telle marque qui est quand même emblématique
30
et que 30 ans et que je regarde depuis que. C'était pas un prime au départ. Hein. Je crois qu'au départ, Emmanuel Chin, c'était une chronique et c'est avec Nicolas Taverneau qu'ils ont décidé de lancer ça. Je suis ça, moi, depuis maintenant 30 ans et c'est un honneur de pouvoir défendre. On est un peu dans le même environnement. Hein. Moi, je regarde par le
prisme du client. J'ai eu très peur. Si je peux vous aider, oui, voyez, faites très très attention à ce que vous allez dire.
Je m'aperçois, Yves Calvi, qu'on ne peut pas avoir une discussion sérieuse avec vous. Si certains en doutaient, vous voyez, je parlais d'économie, macroéconomie, microéconomie, et immédiatement vous dérivez, et c'est très gênant.
ça me met très mal à l'aise.
Parce qu'en ce moment, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas de Taverneau qui est en train de m'écouter en disant voyons comment il va vendre.
Ah oui, il va bien se débrouiller.
Et vous m'avez bien foiré le truc et je vais devoir rattraper ça toute la journée. Mes amitiés, monsieur Calvi.
On vous embrasse et on a hâte de vous retrouver à la télévision aussi sur M6. Salut.
Salut, merci.
Vous écoutez RTL.